Alors, bienvenue pour cette table ronde suivante qui va concerner l'exposition qui est derrière nous, l'exposition Amazing Science, qui a volontairement repris dans son intitulé une partie d'un titre de la première revue de science-fiction qui s'appelle Amazing Stories, qui a été publiée dans les années 1926. Donc ça nous ramène vraiment dans les premiers temps de la science-fiction. C'est une exposition qui a été réalisée par l'INSERM et par le CEA, qui sont nos partenaires scientifiques dans ces utopiales. Et nous avons, pour parler de cette exposition, j'espère qu'ils l'ont vue, enfin je sais qu'il y en a au moins un qui l'a vue, c'est Claude Ekenn, parce qu'il a participé à la rédaction des, je crois comme on dit en anglais, des short-shorts, des toutes petites nouvelles, des tout petits textes littéraires, finalement, des toutes petites histoires qui illustrent chacun des panneaux, des, je crois, 26 panneaux de l'exposition, peut-être 26. Enfin, il y en a, mettons, 26, je pense que c'est un nombre approximatif, mais qui est de bon ordre de grandeur. Et donc, il a écrit ces très petits textes pour mettre en scène, finalement, la science. C'est une exposition scientifique, mais qui utilise le prétexte de l'image et de l'ambiance science-fictive, science-fiction, pour parler de science. Et donc, Claude a écrit les petites histoires qui mettent en scène les découvertes scientifiques dont il est question. Alors, on peut quand même dire que Claude Ekenn est aussi un auteur de science-fiction. Et que, alors je ne vais pas faire une grande présentation de tous les invités, je pense qu'ils sont tous connus, peut-être Maëtel Tanteur un peu plus, alors que dans le milieu de la science-fiction, il est peut-être il est évidemment le moins connu, puisque c'est un scientifique, mais on va y revenir dans un instant. Donc Claude Ekenn, qui est un auteur de science-fiction, qui a créé le festival de BD d'Aix-en-Provence en 81, qui a eu des prix Rony, est né pour La fin du Big Bang, Fragment lumineux du disque d'accrétion, un titre très science, Fragment lumineux du disque d'accrétion, il n'y a que des mots de science dans un roman, dans un titre d'une nouvelle de science-fiction, qui a été Grand Prix de l'Imaginaire et qui a récemment publié aux éditions La Talente, Au réveil, il était midi. À côté de lui, on voit Dieu, on voit Dieu dans les formes de science-fiction. Dieu, il est là, c'est le grand maître, la figure tutélaire de la science-fiction en France, une des figures tutélaires, Gérard Klein, grand éditeur, auteur de science-fiction aussi, puisqu'il a publié ses premiers textes à l'époque des revues Galaxie et Fiction, donc ça remonte à un âge où les plus jeunes d'entre nous n'étaient même pas vivants. Le premier roman dans les années 58, en 1958, il a créé la collection Ailleurs et Demain, toujours là, une collection de 1969, donc c'est dire la longévité de cette collection et la force de cette collection par la variété des thèmes qui ont été abordés, par la variété des auteurs qui ont été abordés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, voilà, c'est Gérard Klein. Voilà, ça devrait suffire. À côté de lui, Serge Lehmann, auteur de science-fiction aussi, mais aussi critique de la science-fiction, théoricien de la science-fiction, qui a écrit, alors, on est de la même génération, c'est même ça, une fois qu'il m'avait frappé, on s'est rencontré il y a déjà quelques années avec Serge Lehmann, et je lui disais, voilà, j'ai l'impression d'avoir un alter ego, quelqu'un qui a mon âge, qui écrit de la science-fiction, ce que moi j'aurais peut-être aimé faire, et j'ai fait de la science, parce que la science m'intéressait aussi. Et donc Serge Lehmann, auteur, qui a publié, moi, la nouvelle qui m'avait marqué à l'époque, j'ai dit, mais c'est incroyable, j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais jeune, jusqu'à, je veux dire, en 20 ans, après je suis rentré à l'école normale, j'ai fait beaucoup de physique, j'ai lu beaucoup d'autres choses, j'ai découvert des tas d'autres mondes qui n'étaient pas de la science-fiction. Je suis revenu à la science-fiction un peu plus tard, et j'ai lu Nulle part à l'Hyverion, une nouvelle de Serge Lehmann qui m'avait vraiment, ça m'avait scotché, quoi. C'était vraiment une révélation pour moi. J'ai dit, mais la science-fiction francophone, il y en a des jeunes, il y en a en plus de ma génération, des gens comme mon âge. Et donc voilà, Serge Lehmann, qui a aussi alors une activité maintenant plus récente concernant la bande dessinée, avec la Brigade Chimérique, et puis avec... avec Masqué, hein, où il envisage les super-héros européens, francophones presque, et il a beaucoup travaillé sur les origines de la science-fiction, les origines qui sont européennes, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais, la science-fiction est née en Europe, en France, en Angleterre, en Europe en général, c'est exporté, si je veux dire, après aux États-Unis, alors on va aborder tout ça dans la suite, et donc il a beaucoup abordé ce thème-là aussi dans une épaisse anthologie, les chimères. Les chasseurs de chimères, merci cher, les chasseurs de chimères. Et puis notre dernier invité, un scientifique, Michael Tanter, qui travaille à l'ESPCI, l'école physique de physique et chimie industrielle de Paris, une grande école d'ingénieurs, une école de physique, de chimie, et qui travaille au laboratoire de physique des ondes pour la médecine, et qui utilise quelque chose d'assez fascinant, qui s'appelle le retournement temporel, qui utilise des ondes pour, en les retournant dans le temps, il leur fait faire une sorte de voyage dans le temps, alors il nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, un vrai voyage dans le temps, pour le coup, sur ces ondes, il les utilise pour faire de l'analyse médicale, de l'imagerie médicale, du traitement médical, dans un laboratoire qui est un laboratoire phare sur ce problème-là, bien sûr, et particulièrement à l'ESPCI, et qui a peut-être, je crois, certains de ces thèmes qui ont été abordés, je ne sais pas, en tout cas, des thèmes qui ne sont pas étrangers aux problématiques de Michael Tanterre, donc qui est directeur de recherche à l'INSERM, hein, Michael Tanterre, et à l'Institut Langevin, donc de l'ESPCI. Donc voilà un beau panel de théoriciens, de scientifiques, d'acteurs de la science-fiction pour nous parler de l'expo Amazing Science et de, finalement, des origines de cette Amazing Science, de cette Amazing Stories. Alors peut-être, je vais peut-être commencer par... Peut-être par Claude d'abord pour parler de l'expo Amazing Science. Comment s'est passé son travail? Un auteur de science-fiction à qui on propose d'illustrer à début de vulgarisation, pas à début de faire une belle histoire de science, mais peut-être aussi de faire une petite histoire très brève et très belle. Comment s'est passé son travail sur cette exposition Amazing Science?
Ça a commencé parce qu'il y a un certain Roland Lehoucq qui avait proposé mon nom à l'INSERM et au CEA. Lorsque j'ai rencontré les deux équipes très sympathiques, le courant est tout de suite passé. On m'a donné des sujets de science, de ce que l'INSERM et le CEA étaient en train de faire. Et j'avais le choix, à partir d'elles, de retenir, de sélectionner les domaines de recherche qui me parlaient, ou du moins qui m'inspiraient. Donc le temps de faire un petit peu le tour de la documentation, d'essayer aussi de trouver des idées originales. Alors il fallait partir essentiellement des images de la science et non pas forcément du domaine de la recherche.
Parce que ce qu'on voit dans ces images de loin, c'est d'abord des images amazing stories, des images de pulp, c'est-à-dire ça donne envie d'aller là-bas.
Il faut que ce soit étonnant.
Mais, on le précise, il y a évidemment inséré dedans, des véritables mêlées dans les images pulps. Il y a mêlées des images de science.
On part des images de science et elles sont incrustées sur de vieilles couvertures de Amazing Science. Voilà. Donc l'essentiel, c'est d'abord cette image-là, c'est elle qu'il faut mettre en valeur. On la met sur la couverture d'un pulp et autour de cela, on va bâtir une petite histoire. Donc j'ai cherché les histoires qui pouvaient correspondre aussi bien à l'image et de trouver aussi une image de couverture qui puisse correspondre, ce qui m'a parfois obligé à proposer 4 ou 5 scénarios pour chacun des sujets. C'était une expérience assez intéressante, pas toujours facile. Bon, déjà pour la longueur des textes, on passe 3 fois plus de temps à réduire le texte qu'à l'écrire. Et c'est aussi un jeu où l'on retombe un petit peu en enfance parce que la manière de présenter ces histoires-là, d'écrire à la manière d'Amazing Science, de raconter des choses étonnantes, c'est pas la manière dont on écrit, c'est pas la manière dont moi j'écris de la science-fiction dans mes bouquins, mais c'est peut-être ce que j'avais aussi lu enfant, donc il a fallu que je revienne vers davantage de simplicité. Enfin bon, je suis parti de ces images-là, et puis ensuite j'ai un petit peu rêvé, navigué, et puis j'ai aussi échangé beaucoup avec Alexandre Chéroux, qui est donc le graphiste qui a mis tout ça ensemble, voilà, qui a pu réunir le tout.
Et là, je vais me tourner vers Serge Lehmann, puisque l'idée de mêler, d'utiliser la fiction, le roman, le merveilleux scientifique, vous allez nous en dire quelques mots, j'imagine, ça va être ça le sens de ma question, d'utiliser ça pour parler de science. Finalement, on peut peut-être la faire remonter à Julien, en tout cas moi, avec mes faible connaissance de théoriciens de la science-fiction, je la ferai remonter à Jules Verne, à Wells, à Poe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les premiers temps, vous qui connaissez bien ces origines de la science-fiction, du roman scientifique, du merveilleux scientifique?
C'est une longue histoire et c'est une histoire d'autant plus fascinante qu'elle est très méconnue, alors qu'elle c'est une grande histoire culturelle qu'on commence seulement maintenant à redécouvrir. Disons, les matériaux étaient éparpillés dans les essais, dans les histoires, mais ils n'ont jamais fait l'objet d'une condensation et d'une rationalisation. Donc c'est une histoire qui nous échappe encore, dont la chronologie et la logique nous échappent encore. La science-fiction, elle a commencé à être pressentie à peu près au milieu du 19e siècle, essentiellement à partir de l'œuvre d'Edgar Poe. Avant, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à la science-fiction. Il y a une grande tradition qui va de l'Antiquité jusqu'à Cyrano de Bergerac, à Voltaire... en passant par le Frankenstein de Mary Shelley, il y a la tradition de l'utopie, il y a la tradition du conte philosophique. Tout ça sont des ancêtres vénérables de la science-fiction qu'on connaît. Mais la SF, c'est pas ça. La SF, c'est une émotion très particulière qui repose sur n'y a pas de formule type, il n'y a pas de définition de la SF, mais on sent bien qu'il y a une contrainte de réalisme qui est impliquée. On a besoin de sortir du ton de la fable pour entrer dans quelque chose auquel on peut croire le temps d'une histoire, comme on croirait à un roman réaliste, à un roman naturaliste. On sent qu'est impliqué un travail sur la logique, le déroulement logique des événements à partir d'un postulat imaginaire. On sent que l'émotion produite doit être celle de une sorte de sidération ou d'émerveillement, justement, de voir à partir de ce petit postulat, on arrive à des choses extraordinaires juste en étant logique. Donc si cette chose arrivait, elle se passerait effectivement comme ça. Donc toutes ces contraintes de forme, de traitement logique des idées, de traitement réaliste des univers, commencent à devenir sensibles et repérées par la critique, encore de façon très lacunaire, à partir du milieu du 19e siècle, et à partir de l'œuvre de Poe, pour une raison relativement simple, c'est que, contrairement aux Européens qui ont accumulé des textes et des thèmes, essentiellement sous le dehors du conte philosophique, en fait, Edgar Poe, lui, travaille dans un autre univers éditorial et littéraire, il travaille pour la presse. Et les premières histoires qu'il invente, qui ne sont pas du tout l'essentiel de sa production, c'est plutôt un auteur de critiques littéraires et de contes fantastiques. Mais dans sa production, il y a un certain nombre de choses qui ressemblent à des canulars. En particulier, le voyage d'Arthur Gordon Pym, ce qu'on a appelé le canard au ballon, à l'époque canard était le mot pour canular, qui est l'histoire d'une fausse traversée de l'Atlantique en ballon. L'aventure s'emparer de Hans Fall, qui est l'histoire d'un voyage imaginaire vers la Lune, mais qui aurait été rapporté dans un journal par un témoin hollandais qui aurait vu le décollage, etc., etc. Il y a une poignée de textes comme ça qui, d'un seul coup, importent l'esthétique du réalisme de la presse, mélange de réalisme et de sensationnel, de précision technique, de description des objets technologiques imaginaires, les ballons, les appareils.
Ça donne de la crédibilité,
c'est ce que voilà, c'est ça. Il y a un discours.
Ça donne de la crédibilité.
Il y a un discours littéraire qui importe le réalisme et l'effet de réel de la description technique. Chose que personne n'avait pensé à intégrer dans la littérature avant lui. Et donc, il y a une remarque des Goncourt dans leur journal qui est très intéressante parce qu'en lisant l'œuvre d'Edgar Poe, et bon, évidemment, Edgar Poe, c'est Baudelaire, c'est la dérivation romantique, la poésie. Mais les Goncourt voient autre chose. Ils voient, il y a un passage de leur journal qui est très intéressant où ils disent quelque chose que la critique n'a pas vu, une nouvelle forme littéraire où on ne parle plus de l'amour mais d'énigmes scientifiques et logiques. Ils sentent que quelque chose de nouveau vient d'apparaître. Et il y a un autre personnage qu'il va extraire de Poe ce principe actif et qui va en faire la racine d'une œuvre majeure, c'est Jules Verne. Jules Verne est absolument en admiration devant Edgar Poe. Et des quelques 3-4 textes qui sont du merveilleux scientifique pur, lui tire le principe des voyages extraordinaires. Or, les voyages extraordinaires, contrairement à l'œuvre de Poe, c'est un succès mondial dans les 10 ans qui suivent les premiers volumes. Et apparaissent partout, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, des auteurs qui imitent Verne, qui essayent de prolonger et d'amplifier la veine qu'il vient d'ouvrir, qui est celle de l'épopée géographico-technique, on va dire. Et scientifique. Donc on est dans cette espèce de monde de la fin du 19e siècle, monde plutôt optimiste, plutôt en phase ascendante, où la connaissance s'élargit, se systématise, où il y a de grandes sagas scientifiques, techniques, industrielles à raconter. Et tout ce matériau-là, c'est vraiment, disons, la dernière couche avant la science-fiction moderne, celle-ci étant formulée par deux auteurs, un belge et un anglais. Le belge, c'est J.H. Roniéné, l'auteur qu'on connaît aujourd'hui surtout pour la guerre du feu, mais qui, à partir de 1887-88, s'affranchit de la tutelle d'Émile Zola, dont il est l'un des disciples, pour importer le réalisme et le naturalisme sur un champ d'hypothèses tout à fait nouvelle, fin du monde, existence de réalités parallèles, d'entités biologiques incompréhensibles. C'est des choses qui le passionnent, et qui le passionnent d'autant plus que lui est très, très fasciné par la paléontologie qui est en train de naître. Enfin, il se dit, au fond, le roman préhistorique, le merveilleux scientifique, tout ça, c'est le même continuum littéraire et intellectuel. Et 5-10 ans plus tard, en Angleterre, un autre personnage accomplit exactement le même travail, mais avec lui aussi, cette fois, une fortune mondiale, c'est H.G. Wells, qui met en scène le darwinisme dans un récit aujourd'hui légendaire, La machine à explorer le temps, et qui, bon, voilà, ces œuvres-là, et cette trajectoire-là, c'est l'accumulation primitive du matériau de ce qu'on appellera plus tard la science-fiction.
Voilà. Et la science-fiction, bien sûr, alors je vais me tourner vers Gérard Klein, puisque ensuite, cette science-fiction, elle a franchi l'Atlantique, enfin, cette science-fiction, cette proto-science-fiction a franchi l'Atlantique, et on a quand même un des grands pères, puisque Amazing Science, ça fait référence à Amazing Stories, qui a été fondé par Hugo Gernsback. Hugo Gernsback, qui lui-même, avant de publier Amazing Stories, avait publié Modern Electrics, je n'ai plus tous les titres, Science and Invention. Il a publié des revues qui étaient elles-mêmes des revues de vulgarisation scientifique et technique sur l'électricité, sur les merveilles, disons, de l'électricité et de la technique, et dans lesquelles, et de la radio, et dans lesquelles il avait inséré au début, puis de plus en plus, des textes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette transition
Oui, alors je crois que cette exposition est un véritable retour aux sources. Pardon, parce que l'intention, en tout cas, affichée de Gernsback en créant Amazing Stories, c'était d'attirer l'attention du grand public sur la science, c'était de familiariser le grand public avec la science en utilisant le ressort de l'aventure, de la fiction. Et comme l'a dit notre ami Le Houk, il avait déjà entrepris ça à partir des années 1909-1910 avec Modern Electrics, qui était essentiellement une revue destinée aux radioamateurs. Enfin, les gens à l'époque fabriquaient leur radio, et dans Modern Electrics, Gernsback avait glissé un roman de sa main qui est peu lisible aujourd'hui, qui probablement d'ailleurs était déjà peu lisible à l'époque, mais qui regorge littéralement d'inventions qu'il projette dans l'avenir et dont certaines sont très très intéressantes, enfin se sont plus ou moins réalisées. Alors, parallèlement à ce qui s'est passé en Europe, parce que c'était moins une invasion de la science-fiction ou de la proto-science-fiction européenne aux États-Unis que l'apparition, enfin, de courants en quelque sorte parallèlement aux États-Unis, en tout cas en ce début du XXe siècle, de toutes sortes de revues publient des textes dans tous les domaines, detective novels, domaine du western, mais aussi des histoires que nous qualifions aujourd'hui de science-fiction. Et l'idée, je n'irai pas jusqu'à dire le génie, l'idée la fondatrice de Gernsback, qui était lui-même un émigré européen, c'était un luxembourgeois, il ne l'a jamais oublié d'ailleurs, ça a été qu'il s'était constitué de la sorte un public suffisant pour soutenir une revue qui réunirait à peu près exclusivement des textes de science-fiction et qui par là chanterait en quelque sorte les louanges de la science. Et il a admirablement réussi. Bon, oubliez que c'était par ailleurs un homme d'affaires très rodé, il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'est intéressant de se pencher sur les conditions de cette réussite. En 1926, l'Amérique est en pleine euphorie. Elle est en pleine euphorie économique et elle est en pleine euphorie technicienne. Mais il va y avoir la crise de 1929 et on pourrait craindre que cette crise, qui a été extraordinairement sévère, comme chacun sait, ait tout flingué par terre. Bon, ça n'a pas été le cas. Les pulps étaient bon marché. Les gens qui se trouvaient dans une très grande difficulté pour au moins entre un tiers et la moitié de la population laborieuse américaine cherchaient du rêve. Donc il y a deux domaines qui ont profité considérablement, si j'ose dire, de la crise. Ça a été le cinéma. Les cinémas étaient pleins, ne serait-ce que parce qu'ils étaient chauffés l'hiver et climatisés l'été. Et les pulps, précisément. Il y a eu une véritable explosion, dont Amazing, et toute une série de revues qui se sont créées autour, qui avaient moins de soucis scientifiques que n'en avait Gernsback. Il y a toute une série de revues donc, qui ont véritablement explosé. Enfin, il y en a eu jusqu'à 55 ou 60, enfin, je ne sais plus exactement. Alors, il faut bien voir que Gernsback, d'emblée, met sa revue sous l'égide de Jules Verne. Il se trouve que je possède et que j'ai beaucoup fréquenté les premiers numéros. Il place et il introduit des auteurs européens et en particulier des auteurs français en insistant dans presque tous ses éditoriaux sur la dimension technico-scientifique, généralement plus technique que proprement scientifique, mais enfin technico-scientifique de ces histoires. Quant aux histoires elles-mêmes, c'est une autre affaire.
Donc là, on voit, on a brossé un peu le, comment dire, la, en grande ligne l'histoire un peu des rapports entre science et fiction, enfin des rapports au moins de la science-fiction comme pour partie support de vulgarisation scientifique finalement, de mettre en scène la science pour la décrire, pour montrer que c'est quelque chose qui peut être source d'émerveillement. Et je vais me tourner maintenant vers Michael Tanter pour lui demander, est-ce que la science, la réponse je la soupçonne, mais j'en ai une idée aussi, est-elle toujours pour vous source d'émerveillement, et particulièrement dans le domaine dans lequel vous travaillez, donc qui est de la physique, mais qui est de la physique pour l'imagerie médicale et particulièrement l'imagerie du disque mou, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous élaborer sur cette question de l'émerveillement que la science en général, mais peut-être plus particulièrement aussi de votre domaine de recherche, peut produire ?
Oui, la science, tous les scientifiques sont passionnés, ils adorent ce qu'ils font, et j'ai l'impression que ce qui les fait avancer, bien sûr, c'est le côté rationnel, essayer de poser, démontrer des choses, mais ce qui les fait avancer, leur carburant, c'est la science-fiction. Tout scientifique, normalement, aime la science-fiction, parce que soit il en lit des bandes dessinées, des livres, et il est dans ce concept de l'imaginaire, soit il pense qu'il n'y est pas, mais en fait, il y est, puisque au moment où il fait ses découvertes et il essaye d'aller vers l'avant, il essaye de découvrir des choses qui sont de la science-fiction. Et ce qui lui fait qu'il va être heureux de découvrir, de faire une découverte, c'est le fait d'arriver à démontrer quelque chose qui n'était pas encore découvert, et donc c'est de la science-fiction en fait, et c'est ça qui le fait avancer. Alors on peut se demander finalement qui découvre, est-ce que c'est le scientifique qui découvre, ou est-ce que ce sont les gens qui sont dans la science-fiction qui laissent transpirer les idées vers les scientifiques qui ensuite eux les démontrent. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition. Il y a deux façons de voir l'exposition et les affiches. Soit on peut les voir comme un mélange entre des images de laboratoire et des images de Amazing Science qui regardent vers l'avenir, et on dit, ben, vous voyez, il y a un mélange entre science et science-fiction pour aller démontrer quelque chose vers l'avenir. Mais dans certains cas, on peut voir dans les affiches l'inverse, c'est-à-dire que ce qui a été proposé par les gens du côté science-fiction il y a des dizaines d'années, et on a une partie de la démonstration qui maintenant est faite, et on continue à avancer ensemble, quoi. Donc je pense qu'il y a un couple science et science-fiction qui est impossible de séparer.
Merci. J'avais une question encore après pour vous, mais allez-y, Gérard, allez-y.
Oui, je peux.
Bien sûr.
Là-dessus. Oui, honnêtement, je ne pense pas que les scientifiques soient très souvent inspirés par des œuvres de science-fiction. Il y a une relation, mais enfin, elle est complexe. Mais alors, ça soulève une question qui est assez typiquement française. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus en France de scientifiques, comme ça se passe aux États-Unis et dans une moindre mesure en Grande-Bretagne, qui écrivent, à côté de leurs travaux certes très prenants, de la science-fiction. Bon, ici, nous avons un excellent écrivain de science-fiction, un des meilleurs en France, qui est Claude Aiken, qui écrit de la science-fiction, parfois très solidement appuyé sur les faits scientifiques. Mais Serge Lehmann aussi a une très bonne culture scientifique, moi n'en parlons pas, je sais tout. Mais pourquoi, par définition, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de scientifiques, et ne me dites pas que c'est parce que vous n'avez pas le temps, nous non plus, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de scientifiques en France qui écrivent de la science-fiction ou qui tentent de le faire, alors qu'aux États-Unis, on peut en citer des dizaines. Et soit, alors par scientifique, il faut être clair, j'entends soit des gens qui continuent à exercer une profession proprement scientifique dans la recherche ou plus fréquemment dans l'enseignement, soit des gens qui n'exercent plus de telles fonctions, mais qui ont reçu une éducation scientifique poussée. Enfin, le docteur Isaac Asimov, par exemple, n'a jamais beaucoup exercé l'enseignement de la chimie qui était son domaine, mais il avait une solide formation qu'il a d'ailleurs utilisée dans ses bouquins de vulgarisation qui sont remarquables. Pour moi, c'est un peu. J'ai quelques réponses, hein, mais c'est à vous que je pose la question.
Je le déplore autant que vous, malheureusement. En fait, je trouve qu'on gagnerait énormément à avoir plus de couples science-fiction-science. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que, moi, peut-être, j'ai un élément de réponse. Ça fait partie de notre éducation, notre système éducatif, qui est beaucoup trop rationnel, en fait. On n'apprend pas suffisamment... Une chose qu'on doit apprendre à la fois à un scientifique et quelqu'un qui fait de la science-fiction, c'est apprendre à être curieux. Et développer la curiosité. Je pense que le système éducatif français, malheureusement, nous pousse beaucoup vers le rationnel. Et il faut garder un mélange entre les deux. C'est bien d'être rationnel pour pouvoir progresser et expliquer les phénomènes. C'est aussi bien de rêver. Et je crois que les grands scientifiques, ce sont des gens qui rêvent et qui sont poussés par les rêves. Alors, quand je disais tout à l'heure que les scientifiques ne s'inspiraient pas de la science-fiction, que je s'inspirais de la science-fiction, vous ne croyez pas. Moi, je pense que c'est inconscient, quelque part. C'est-à-dire qu'on a tous on a une sorte de méga-cerveau qui est la connexion de tous les cerveaux des scientifiques.
C'est de la science-fiction, ça, ouais, ouais. Méga-cerveau.
Mais on a presque des preuves. C'est-à-dire qu'il y a plein de découvertes. Moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est quand on fait une découverte, quasiment au même moment, quelques mois après, à un autre endroit dans le monde, quelqu'un était en train de la faire. Et il y a eu ce... Et donc, ça veut dire que, quelque part, il y a une pensée collective qui avance et donc qui fait que toutes les idées... C'est comme quelqu'un qui écrit de la musique, qui va écrire, composer une musique. Il est baigné d'autres morceaux, d'autres influences, et ça finit par retransparaître. Par contre, sur le côté éducation, c'est vrai que...
Et peut-être aussi, mais Serge Lehmann avait déjà parlé une fois, ce déni en France particulièrement, de ce déni de la science-fiction, c'est peut-être aussi ça vient peut-être d'un malentendu de traduction, enfin de compréhension, vous en aviez parlé plusieurs fois.
Bon, d'abord, il faut bien voir que le simple fait d'avoir des conversations comme celle-ci en public, dans le cadre d'un festival grand public, prouve que il y a une grande partie des problèmes qui ont été levés. On n'est pas devant des phénomènes massifs, mais c'est des choses. Il y a encore 20 ans, ce genre de problématique n'aurait pas pu être évoqué parce que simplement personne n'aurait voulu participer au débat.
Il y a des scientifiques qui viennent dans des festivals de science-fiction maintenant. Voilà. Donc
je peux répondre à la question et raconter une histoire aussi qui correspond à ce que vous dites sur peut-être l'excès de rationalisme ou en tout cas, c'est peut-être pas tant d'ailleurs l'excès de rationalisme, c'est la capacité à placer à la bonne place, à placer au bon endroit le processus d'imagination. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une collection qui avait été créée aux éditions Flammarion, dont le concept était faire travailler ensemble un scientifique de haut niveau et un auteur de science-fiction sur une problématique contemporaine et produire des livres de SF pour le grand public très solides scientifiquement. Et c'était chez Flammarion. Il me semble que c'était chez Flammarion. Et donc les auteurs pouvaient apporter les projets et les sujets qu'ils voulaient. Or, c'était l'époque où on venait de découvrir sous la banquise de l'Antarctique l'existence du lac Vostok. Le lac Vostok, c'était un...
On l'a percé récemment.
C'est un objet...
On y est arrivé récemment. Enfin,
c'est ça qui est très amusant. Voilà. C'est un objet géographique et scientifique assez extraordinaire puisque c'est un lac d'eau liquide souterrain, enfin sous glaciaire, pour être exact, c'est une pellicule d'eau qui doit être épaisse de 40-50 mètres peut-être et qui se trouve sous la banquise et sur le socle continental antarctique. Or, c'était aussi l'époque où on venait de découvrir dans les glaces de l'Antarctique ce qui était vraisemblablement des météorites martiennes. Et donc j'avais eu cette rêverie associative qui est propre aux romanciers de SF. Je m'étais dit, au fond, imaginons qu'une météorite chargée de bactéries martiennes ait migré par le jeu des mouvements jusqu'au lac sous-glaciaire, on pourrait imaginer qu'il y ait sous les glaces de l'Antarctique un biotope martien sur Terre. Je trouvais l'idée assez amusante et j'avais proposé ce projet à l'éditeur qui avait dit « Formidable, je te fais rencontrer le spécialiste des études polaires françaises, le successeur de Paul-Émile Victor, et vous allez raconter l'histoire de cette découverte, etc. » Donc je dîne avec ce monsieur qui était charmant et très imposant, même dans son statut scientifique, et je commence à lui raconter l'histoire. Donc il m'écoute avec un air un peu torve, mais sans se prononcer. Et puis à un moment, je dis, donc, il me dit « De quoi vous avez besoin ?» Parce que moi, je suis spécialiste de logistique, en fait. Donc je lui dis, mais c'est très bien la logistique. Ce que je veux, c'est la description du système technique qui permet de traverser la couche de glace et de descendre des robots, des sondes, voire des hommes dans le lac en question. Enfin, c'est pas possible. Je lui dis, mais oui, d'accord, mais c'est le sujet d'un roman de science-fiction, c'est qu'on imagine quelque chose qui est hypothétique. Fait, oui, mais ça, c'est pas possible. Et il a jamais pu aller plus loin que ce c'est pas possible. Ouais, donc ce roman n'a jamais été écrit. Ouais. Et dans ce sens, ce c'est pas possible, il y avait en fait indépendamment de tout désir de sérieux scientifique, il y avait l'incapacité à passer de ce qui est possible ou plausible scientifiquement à la spéculation qui est proprement celle de la SF.
Ça, c'est difficile en science. Après, Gérard va vouloir intervenir, mais j'ai juste un point. C'est que pour un scientifique, passer de impossible à très difficile, c'est un saut conceptuel gigantesque. Dans un cas, on n'étudie même pas. Dans l'autre cas, il y a des gens qui font des recherches dessus, même si on sait bien que ça sera dans longtemps que ça marchera. Donc ça, c'est vraiment un saut. Il y a vraiment un saut quantique, là, comme on dit. Il y a un saut important entre impossible et... ou jugé impossible à une époque, et après, maintenant, on sait que les Russes ont atteint, finalement, le lac Vostok. Ils n'ont pas encore fait de choses dedans, mais ils ont creusé la bonne profondeur pour... Ils savent que c'est là, un mètre en dessous, et il n'y a plus qu'à
percer. Parce qu'ils ont peur,
ils veulent pas percer pour pas contaminer. Bon, mais ils ont atteint.
Donc, non, mais ce que je voulais dire, c'était, en répondant précisément à la question soulevée par Gérard, pourquoi en France, il n'y a pas cette espèce de cohorte d'auteurs ingénieurs ou chercheurs qu'on trouve aux États-Unis et effectivement en Angleterre aussi, qui écrivent de la science-fiction de très grande qualité. Pourquoi on n'a pas ça ici? Parce qu'on a les mêmes esprits, les mêmes qualités scientifiques. Et ben, je crois qu'il y a une difficulté typiquement française dans le refus de franchir ce « c'est pas possible ». C'est-à-dire, dans le cadre de la science-fiction, voilà, il y a...
Un saut, quand on est scientifique, une rétention à faire le saut dans l'inconnu.
Exactement.
Trop fréquente à faire
Or, sans ce saut, il n'y a pas de science-fiction.
Ouais. Oui, Gérard, tu voulais avoir...
Oui, effectivement, tu as raison, c'est Flammarion qui avait fait cette tentative. Il y en a une autre où plusieurs volumes sont parus. Au Seuil, je me trompais en parlant de Gallimard. Le Seuil, d'ailleurs, m'avait fait Jean-Pierre Andrevon, a publié L'homme aux dinosaures dans
Pierre
cette
Pelot
collection,
aussi.
Pierre Pelot, etc. Le Seuil m'avait fait un contrat pour un bouquin sur la vie artificielle, mais ils ont arrêté la collection. Alors, il y a aussi un problème, il y a aussi un problème du côté du public. Mais on peut, la question, on peut la poser aussi à Roland Lehoucq, c'est pourquoi, en tant que scientifique,
c'est moi qui pose
est-ce que
aussi.
Tu n'écris pas aussi à l'occasion, d'autant que tu as une excellente plume de la science-fiction?
Oui, c'est mon plus grand désir. J'ai fait une tentative avec Claude, déjà, où Claude a été plus qu'un support, on va dire, un co-auteur où j'ai beaucoup appris avec lui. Oui, mais ça traîne dans mon cerveau. Donc ça se fera sûrement un jour avant que je décède. J'espère bien.
Cela dit, je crois qu'il y a un problème qui d'ailleurs s'est beaucoup estompé. Hein. Mais il y a un problème chez beaucoup de scientifiques en France, pour ne pas dire chez tous les scientifiques en France, c'est la crainte de cesser d'être pris au sérieux quand ils sortent. Bon, du domaine de leur publication scientifique. Et moi, j'ai vécu ça avec Pierre Papon, qui était directeur du CNRS, qui a fait de grands efforts dans ce sens pour développer l'information scientifique grand public ou la vulgarisation, que je situe un cran en dessous, malgré les réticences des scientifiques.
Oui, parce que là, ce qu'il faut
ce qui, pardonne-moi un simple mot, ce qui, justement, laisse le champ libre à des clones comme les Bogdanov.
Voilà, c'est vrai. Alors, c'est ça, Michael va vouloir réagir, mais c'est ça qu'on peut remarquer aussi comme dans cette exposition, c'est que c'est quand même, enfin, c'est l'INSERM, le CEA, c'est des organismes, vous voyez, c'est des grands organismes de recherche qui sont d'accord pour produire une exposition, quand même, c'est explicitement la science-fiction, donc le truc, bien souvent, comme disait Serge dans d'autres textes, considéré comme de la science fictive, alors que c'est une fiction scientifique, c'est un roman scientifique, eh bien, qui est utilisé comme visuellement, pour partie, et pas complètement, mais on va revenir sur Claude aussi, sur ce mélange des images, pour parler de science. Donc ça, c'est quand même un pas incroyable qui a été fait, et on voit quand même que ça progresse, quoi, que les choses progressent, évidemment. Oui, Michael,
ouais,
tu voulais...
Oui, je voulais réagir là-dessus. En fait, il y a des Français, quand même, ouais. qui défendent le côté imagination. Et moi, j'ai une anecdote. On a beaucoup travaillé donc, dans mon équipe sur le concept de retournement temporel des ondes. Qui était initié il y a une vingtaine d'années maintenant par Mathias Fink, le directeur de l'Institut Jean-Jouin. L'idée géniale qu'il avait eue a été d'appeler ça les miroirs à retournement temporel. C'est un super nom, la machine à remonter le temps, et on le présente souvent comme ça, en fait. Et on n'a pas eu peur de le faire. Et très souvent, nos collègues américains, nos collègues étrangers, nous ont un peu pris pour des charlots de temps en temps, et ont été réticents. Et d'ailleurs, quand ils sont mis à faire les mêmes travaux que nous, à reprendre nos travaux, ils ont commencé à appeler ça la conjugaison de phase en optique, qui est très connue en optique.
Ah, ils se sont fait tuer avec ça.
Et alors, la conjugaison de phase, en disant que
c'est moins marrant.
Ouais, c'est moins marrant, c'est moins rêveur. C'est
oui, mais voilà, mais on voit. C'est vrai qu'en science, souvent, on essaie de chercher un nom un peu sexy, quoi, pour parler d'une expérience, d'une belle expérience scientifique. Alors là, les miroirs à retournement temporel, c'est remarquable parce que, en plus de ça, ça a une réelle pertinence scientifique. Il y a des cas qui sont un peu moins réussis, c'est comme la téléportation quantique, qui est un très très joli mot, mais qui représente en fait assez mal, parce que téléportation, on a en gros Star Trek en tête, et les gars qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs, alors que la manip, elle est assez loin de faire ça, et puis même en fait, elle ne fait pas du tout de déplacement de matière, mais du transport d'informations, c'est plutôt un protocole de communication. Donc c'est moins réussi parfois, même si le titre en lui-même, très sexy, fait qu'on se dit « Ah, téléportation quantique, ça a l'air génial !» Je voulais me retourner vers Claude, peut-être tu as une réaction d'abord.
Je voulais rajouter une chose, c'est vrai que le chercheur a peut-être peur du discrédit que l'on pourrait porter sur ses travaux à partir du moment où il se met à écrire de la science-fiction, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de s'inverser depuis quelques années par le fait que pas mal de laboratoires font appel à des auteurs de science-fiction pour leur demander ce qui a été écrit dans le domaine concernant leurs recherches. Ça a commencé avec l'Agence spatiale européenne, le Centre européen des nanotechnologies aussi organise de temps en temps des rencontres, et puis bien d'autres. Donc il commence à y avoir des passerelles entre la science-fiction et la science, justement, pour voir de quelle manière la science-fiction pourrait nourrir aussi la science.
Je voulais revenir vers toi encore, Claude. À propos, alors, c'est pas toi qui as fait les images, il y a ce graphiste dont tu as parlé qui s'est occupé des images, mais finalement, comme Gérard Klein l'a déjà écrit, science-fiction, la science-fiction produit des images. Alors, cinématographique, ça paraît évident, mais même des images mentales, dans des textes, elle produit des images. La science produit des images, évidemment, il y a des microscopies, des images de surface atomique, des images du ciel, de l'univers. Est-ce que c'est finalement ce sont deux sortes d'images, une sorte de description du monde ou d'un réel, d'une part pour la science, mais d'un réel qu'on ne voit pas directement, donc avec lequel il y a une distance. Il y a vous, il y a le truc qui se passe tout petit, par exemple, ou très grand, et puis il y a un instrument entre vous et ce monde. Et puis pour la science-fiction, on est dans l'imaginaire. Enfin, donc on crée des images qui sont peut-être assez lointaines du réel, fondées pour partie sur le réel, mais qui peuvent être assez lointaines. Est-ce que c'est... Ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce mélange des genres entre images de science, images de fiction? Est-ce que ça va s'ensemencer? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va... Manifestement, c'est réussi là-bas. Enfin, pour ce qu'on en voit, c'est réussi. Mais voilà, est-ce que vous pouvez commenter autour de ça?
Il est question de montrer combien la science peut aussi être étonnante. Regardez ce que l'on est capable de faire. C'est ça qu'il faut montrer au départ. L'image de la science en elle-même, comme tu le disais, n'est pas forcément sexy. Qu'est-ce que l'on verra? On verra un écran d'ordinateur, on verra ce qui est sous le microscope. Et à partir du moment où l'on va trouver une molécule qui permettra de soigner quelqu'un, eh bien, l'image, le résultat, c'est de montrer la personne guérie. Mais ça, ce n'est pas la science, c'est le résultat. Et là, la science-fiction va justement nous montrer ce qui est possible de faire, ce à quoi on peut parvenir grâce à la science. Donc tout le travail a été de pouvoir intégrer les images même de la science, celles qui se trouvent dans les laboratoires, avec une partie du résultat, avec un résultat un petit peu rêvé, mais avec, disons, la manière dont la science s'intégrera dans la vie quotidienne. C'est une mise en scène de la science. Voilà.
De la science, voilà.
Serge. Juste une remarque connexe, mais qui a à voir avec le thème. C'est remarquable de constater à quel point la science-fiction... a un rapport aux images qui est sans équivalent quand on regarde l'ensemble du champ littéraire. Et ce, dès le départ. Tout le monde connaît encore aujourd'hui les graveurs de Jules Verne, Ryu, les gravures qui vont dans Voyage au centre de la Terre ou de la Terre à la Lune, ou 20 milieux sous les mers, sont connus dans le monde entier.
Ils sont même indispensables, à la limite, qui sont...
Elles font partie de l'œuvre. Elles sont encore rééditées dans les œuvres aujourd'hui, ce qui est une chose absurde, puisqu'on a énormément progressé. On pourrait imaginer que... Oui. Absolument, juste dans la Pléiade. On pourrait imaginer qu'on fasse une édition aujourd'hui de 20 milieux sous les mers avec des images plus
images,
modernes.
Oui, des vraies images de 20
milieux
sous les mers.
Mais ça n'a aucun sens. Ce sont les images originelles qui ont un pouvoir émotif, esthétique très grand et qui participent du processus de rêverie et de spéculation qui est ce qui est en propre celui de la SF. Entre la science-fiction littéraire, la littérature et les images, il y a une espèce de fusion et de collaboration. On sent que l'image accomplit une partie du travail dans le processus culturel et psychologique. Donc c'est pas un trait infantile du genre, c'est une partie de son esthétique et même de son processus culturel qui se joue dans l'image.
C'est vrai que les scientifiques, Michael, dans les scientifiques, ils ont besoin de se représenter ce qu'ils sont en train d'observer. Il faut d'une façon produire quelque chose qui soit accessible à nos sens, alors qu'on y accède via une machine. Si on regarde le cerveau. Je peux regarder le crâne de Claude, qui n'est pas aussi dégarnit le mien, mais enfin, je ne vois pas son cerveau dedans. Je vois le cerveau de Claude fonctionner quand Claude me parle, mais je le vois mais indirectement. Mais le voir, vous, vous regardez avec vos instruments directement le cerveau fonctionner avec le, votre procédé de miroir à retournement temporel, mais il y a d'autres façons, évidemment, de regarder le cerveau en train de fonctionner. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, donc, d'une part, une nécessité d'image pour les scientifiques qui se construisent par leurs instruments ou par leur représentation du monde qu'ils observent, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose? Ces images, alors je pense particulièrement au cerveau, si on se, est-ce que ça a déjà été quelqu'un qui se regarde le cerveau lui-même? C'est-à-dire, il n'y a pas une espèce de vertige du gars ou de la fille, de la scientifique. Il y a aussi des filles dans les scientifiques. On a beaucoup de garçons qui viennent, mais il y a aussi, il y avait des scientifiques, des filles qui sont venues, hein, Sophie Nicoyer et Lucie Hartz-Panier et Pascal Chenevier, voilà, des autres scientifiques qui sont venues. Filles. Donc, se regarder le cerveau lui-même. Voilà, se dire, voilà, j'ai cet appareil, je le branche et je me regarde en train de me regarder. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, un aspect de vertige de ce côté-là? Et puis aussi sur les images en science.
Oui, si, il y a une forme de vertige. Ça me rappelle un film de Wim Wenders, Until the End of the World, où à la fin du film, ils se retrouvent sur un endroit où ils ont un système pour regarder leurs rêves, justement. Et ils deviennent complètement tellement fascinés par leurs rêves qu'ils ne voient plus la vie autour, ils ne se parlent plus du tout. Et ils sont complètement absorbés par leurs rêves. Et dans l'imaginaire, il y a ce risque-là. En fait, en réalité, on garde les pieds sur terre, justement, parce qu'une partie du plaisir qu'a le scientifique, bien sûr, il y a se dire qu'on va trouver quelque chose qui n'a pas été découvert et l'imaginaire, mais il y a surtout de le démontrer, en fait, d'arriver à un moment donné à dire « Ah, ça, je peux l'expliquer. » Donc il y a les deux plaisirs. Il y a le plaisir de dire « Ah, ça serait fantastique si on arrivait à faire ça un jour. » Et puis il y a le plaisir terre à terre de dire « Ah, ça y est, j'ai réussi à le démontrer. » D'ailleurs, je dis souvent à mes étudiants en thèse, quand ils ont des difficultés sur leur sujet et que c'est long, je leur dis « T'inquiète pas, plus c'est dur de réaliser cette expérience, plus la jouissance cosmique, au moment où ça va marcher, va être exceptionnelle. »
Voilà, ouais, ça fera du bien quand ça s'arrête, c'est ça. Ça fait mal, mais ça fera du bien quand ça s'arrête. Oui, Gérard.
Ce que je voulais dire en écho à tout ça, c'est qu'il y a une esthétique de l'image proprement scientifique, qui n'est plus d'ailleurs tout à fait de l'ordre de la science, mais qui est une esthétique propre et très importante. Et là, il y a un pont, il y a des passages entre science-fiction et science proprement dite. C'est Manchu, le grand illustrateur, l'illustre parfaitement, c'est le cas de le dire.
Bien sûr, on a d'ailleurs une exposition, une petite exposition Manchu de ses illustrations scientifiques, mais poussées au boulon. Quoi. Voilà. Le boulon lui-même est bien dessiné. Et qui est juste à côté.
Et alors, il y a une tradition ancienne de cette esthétique de l'imagerie scientifique, mais qui malheureusement est très insuffisamment portée à la connaissance du public par les galeries, les musées, enfin les institutions touchant à l'art. Le CNRS Images Média a fait quelques expositions d'ailleurs dans le passé sur ce thème de la beauté, enfin l'esthétique, l'image scientifique, mais enfin je regrette que ça ne soit pas plus largement relayé, parce que c'est aussi une façon d'intéresser un grand public aux produits de la science.
Voilà, mais c'était ça, je crois, l'idée de cette exposition, c'était celle-là aussi, c'était par des images très fortes. Ces images de pulp aussi, quand même, qui sont très connues, qui sont très, très colorées, qui ont des images très fortes. Il y en a certaines qui sont juste incroyables. De les mêler, je crois, à la science, ça donnait un fil d'entrée de loin. Quand on voit les Imagine Science, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc, on a envie d'aller voir. Et après, à l'autre échelle plus petite, en science, on aime bien les changements d'échelle. Et à l'échelle plus petite, on dit, ah, mais il y a aussi des choses, et c'est bien, et c'est mis, et puis il y a le texte, et puis voilà. Et on se rend compte qu'il y a différents niveaux de perception de l'exposition. Je vais peut-être me tourner vers la salle quand même, parce que nous, on bavarde depuis 50 minutes, c'est plutôt agréable, il faut reconnaître. Mais il y a peut-être des questions dans la salle concernant les thèmes qu'on a abordés, l'exposition elle-même, ou ce que vous voulez, en fait. Hein. On est là, il y a un scientifique, il y a des grands maîtres de la science-fiction. Tu as des questions? Si on n'a pas, moi j'ai des billes encore. Hein. Il n'y a pas de problème pied avec eux, ça va. On n'a qu'à appuyer sur le bouton. Bon, il n'y a pas de questions particulières pour l'instant. Même Laurent, qui a l'air sérieux. Ah si, Laurent, voilà, je dis Laurent, et hop, il a une question. Laurent Genefort, qui est un auteur de science-fiction, qui est un des représentants de la tendance, on va dire, art science en France, il a fait d'autres choses.
En fait, je voulais savoir, vous avez abordé très brièvement la question de savoir pourquoi il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'auteur réellement estampillé art science en France, et j'aimerais bien avoir le point de vue des auteurs de SF eux-mêmes sur le plateau.
Alors, Claude, tous les trois, en fait, hein, c'est tous les trois du milieu qui sont tous les auteurs. Vas-y.
Je peux commencer par...
Tu peux commencer, Serge, bien sûr.
Je vais faire une réflexion là-dessus. En tant qu'auteur, J'ai effectivement une culture scientifique correcte. Enfin, j'ai fait des études d'histoire des sciences. Je me suis occupé de... J'ai fait une maîtrise sur la carte du ciel photographique à la fin du 19e siècle. Je connais plusieurs scientifiques, donc je vois assez bien de quoi il est question. Mais je ne suis pas un esprit scientifique. C'est-à-dire que mon accès au monde des idées scientifiques et aux procédures scientifiques, il se fait par la vulgarisation. Or, je pense que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, même si je sais qu'un auteur comme Greg Bear, par exemple, qui est considéré comme un auteur de hard science aux États-Unis, n'est pas un scientifique de formation et, en fait, accède aux textes et aux concepts par la vulgarisation, je trouve qu'il y a une différence et même un gouffre entre voir le processus de l'extérieur et position de laquelle on peut saisir toutes sortes d'idées d'histoire ou toutes sortes d'émotions esthétiques liées au processus scientifique. Mais je pense que ce qui caractérise la hard science, c'est que, je crois que c'est Gregory Benford qui avait dit ça, c'est la science qui fait le récit. C'est-à-dire que c'est la problématique scientifique en train d'évoluer qui détermine l'histoire. Bon, voilà. Quand on prend par exemple ce très très beau roman de Benford qui s'appelle Un paysage du temps, où on parlait de réversibilité temporelle, donc il spécule sur l'existence des, je sais plus, ça doit être des tachyons, voilà, ouais. Des particules qui sont capables de remonter le temps. Voilà,
qui vont plus vite que la lumière, voilà, et qui ne que peuvent lumière. Que faire aller plus vite que la lumière. Leur vitesse donc, inférieure, c'est la lumière.
Il y a une équipe de physiciens du Los Angeles de 2040 qui se sert des tachyons pour essayer de communiquer avec des physiciens de 1990 en leur disant les problèmes écologiques vont devenir monstrueux, vous devez prendre des décisions maintenant.
Bon,
donc il y a un jeu sur le temps, sur la causalité. Bon. Mais on sent très bien que ce qui est passionnant dans ce roman, outre le fait qu'il décrit de la vie de laboratoire et que donc c'est formidable comme portrait de groupe, on va dire, et de milieu, c'est aussi qu'on a l'impression d'une très très grande solidité de l'assise conceptuelle. Mmh. Et pour cause, c'est que Benford est un physicien, donc il arrive à trier et il arrive à organiser son récit de façon à ce qu'il suive la logique scientifique elle-même. Si moi je devais aborder ce thème, je ne pense pas que j'arriverais à être aussi fusionnel et intime avec le processus scientifique. Donc pour répondre à ta question, Laurent, je pense que il n'y a pas mon 36 solutions pour faire de l'art science. Il faut être un scientifique professionnel, ou en tout cas quelqu'un qui connaît vraiment de l'intérieur le processus scientifique. Voilà. Sinon, on se sert on a une relation médiée à la science qui est la vulgarisation. Et la vulgarisation, en fait, elle ne donne pas accès à l'intérieur du processus. Or, je pense que c'est l'accès à l'intérieur du processus qui permet à un auteur de faire de la hard science.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'essentiel, et c'est le cas de beaucoup d'écrivains américains, c'est d'avoir, et anglais aussi d'ailleurs, c'est d'avoir une très bonne culture scientifique. Ma formation n'est pas proprement scientifique, en tout cas c'est dans les sciences humaines, l'économie et la psychologie, mais je pense avoir une bonne culture scientifique que j'ai acquise d'ailleurs pour l'essentiel en fréquentant des scientifiques. Ça s'attrape comme la grippe. Quand on les fréquente beaucoup, on finit par être envahi par leur virus. Mais j'ai écrit quelques nouvelles qui peuvent être qualifiées de hard science, en particulier une nouvelle carrément ancienne, Les virus ne parlent pas, qui est paru initialement en 1967 qui résonne encore aujourd'hui, je crois, comme ayant un fond scientifique solide. D'ailleurs, je projette de lui donner une suite. J'ai écrit quelques autres nouvelles qui sont solidement fondées scientifiquement, en particulier une qui s'appelle « La serre et l'ombrelle ». C'était avant qu'on en parle, mais sur la possibilité en géo-ingénierie de réduire le problème du réchauffement planétaire avec des écrans, enfin une ombrelle spatiale. J'ai fait un certain nombre de choses de ce genre. Je crois qu'à condition de consulter les ouvrages scientifiques régulièrement et l'information scientifique, je n'aime pas le terme de vulgarisation. Il y a trois stades pour moi. Il y a les revues professionnelles scientifiques auxquelles je peux ou pas du tout accès. L'information scientifique, Nature. Enfin, les grandes revues scientifiques sont des revues d'information scientifique. Ce ne sont pas normalement des revues professionnelles scientifiques. Ou pour la science en France, ou le Scientific American, American Scientist, etc. Ou la recherche, évidemment, sont des revues d'information scientifique qui synthétisent, sous la signature souvent de très grands savants, l'état des connaissances. Alors, je crois que quand on a une curiosité dans ce domaine, une vraie curiosité, et qu'on fait le travail nécessaire comme le fait Claude Aiken, on peut tout à fait écrire de l'art science sans avoir passé 20 ans devant une paillasse.
Voilà, bon, oui. Ceci dit, je ne me considère pas justement comme véritablement un auteur de hard science, parce qu'on fait, on fait moins de la science qu'on a un discours sur la science. Voilà. Ceci dit, on essaye, un bon écrivain est un bon menteur, et donc pour être un bon menteur, il faut toujours coller au plus près de la vérité. Autant à ce moment-là, se documenter à fond, parce que, et puis même, plus on se documente, plus on peut trouver quelques pépites narratives et enrichir sa fiction avec des détails qui sont vraiment parlants. Ceci dit, Laurent, comme moi-même et d'autres, nous connaissons aussi des scientifiques que nous pouvons tirer par la manche de temps en temps pour leur demander de nous aider sur les parties scientifiques un petit peu difficiles, là où nous sommes un petit peu empêtrés. Et je crois qu'ils sont toujours prêts à nous aider et à faire en sorte que le point de vue scientifique du récit soit exact au mieux.
Pour conclure, je vois que Claude, il a un t-shirt, j'ai remarqué qu'il y a sur son t-shirt, j'ai marqué scientifiction. Alors quand même, il faut en dire quelque chose, on ne peut pas partir sans qu'ils nous disent qu'est-ce que c'est que ce scientifiction qui est là.
Alors, voilà,
ben, montre-le bien ton t-shirt.
Voilà, là, oui, bon, bien, voilà. Ça c'est le t-shirt d'Amazing Stories, justement. La revue donc est née en 1926 et il y a eu un concours à un moment pour trouver le logo, l'image qui caractériserait le mieux cette littérature qui n'avait pas encore le nom de science-fiction. Le nom de science-fiction viendra en 1929. Et donc en 1928, ce concours, celui qui l'a gagné, c'est Frank Herpol, un des plus célèbres illustrateurs de la revue. Et synthétise, à mon avis, enfin, pour depuis longtemps de toute manière, au mieux ce qu'est cette littérature. On a ici des charpentes métalliques avec des boulons, un petit peu la tour Eiffel de Verne, et à ce moment-là, on a donc le côté très technologique, on a un fond céleste, des étoiles, des astres qui donc nous montrent le rêve spatial. On a ici un stylo qui ressemble quand même à une seringue avec une couleur, un liquide. Bon, c'est peut-être du sang, c'est peut-être autre chose, mais nous avons la partie biologique. Vous remarquerez que dans l'engrenage central, il y a des petits éclairs qui symbolisent, bon, évidemment, l'énergie électrique, l'énergie qui est nécessaire à la science. Et ce stylo est donc peut se mouvoir parce que il y a d'un côté un engrenage qui s'appelle fact, donc les faits. Et de l'autre côté, la théorie. Et donc, entre les faits et la théorie, s'écrivent des histoires qui s'appelaient à l'époque la science-fiction et qui deviendront plus tard la science-fiction. Voilà. Et je remercie aussi Alexandre Chéroux, le graphiste, de m'avoir indiqué qu'on pouvait acheter ce t-shirt.
Ah oui, moi je m'intéresse ce t-shirt du coup.
Bah, il nous donnera l'adresse.
Bon, il nous donnera l'adresse. Bon, mais voilà, je crois que la table ronde, on va laisser la place pour le suivant. Donc, l'exposition, comme vous l'avez compris, elle est derrière vous. Il y a 26 panneaux. Il y a aussi des petits. Comment dire, des petits catalogues qui sont disponibles, hein, que vous pouvez prendre, qui résument l'exposition, qui la mettent un peu en scène, qui la mettent en contexte. Et puis, vous retrouvez tous les petits textes de Claude Ekenn, les petites images scientifiques, enfin, tout en miniature dans un catalogue. Mais enfin, un très joli catalogue aussi qui a été l'œuvre du graphiste et puis des gens, de toutes les personnes qui ont participé à cette exposition. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis, les Utopias, elles continuent. Hein, c'est parti encore pour. Et après, voilà, il y a une table ronde encore après, et puis ça ne s'arrête pas jusqu'à ce soir. Merci à vous, merci aux invités. Thank you.